Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec un dossier qui est consacré à la géopolitique de la peur. Et puis, vous pouvez également retrouver les anciens numéros de Conflit en format papier et en format numérique sur notre site internet revueconflit.com. Cette semaine, nous n'allons pas vraiment faire de la géopolitique, mais nous allons plutôt nous intéresser à la littérature avec un des poètes les plus connus de la langue française, Arthur Rimbaud, un de ceux qui ont énormément marqué leur temps. Nous sommes cette année 2021 dans la commémoration du traité de Francfort en 1871 et on sait que la guerre franco-prussienne a joué un rôle extrêmement important dans l'œuvre littéraire d'Arthur Rimbaud, notamment ce qui est peut-être son poème le plus connu, Le Dormeur du Val. Et puis Arthur Rimbaud, c'est aussi l'attrait pour les voyages, l'attrait notamment pour l'Asie, pour le golfe d'Aden, et il est lui-même décédé à Marseille des suites d'une maladie contractée lors de ses voyages. C'est donc de cet Arthur Rimbaud, à la fois poète et voyageur, que nous allons traiter avec un de ses biographes, Alain Vircondelet. Bonjour. Merci Bonjour. Beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous travaillez sur différents écrivains, Marguerite Duras, Antoine de Saint-Exupéry, sur lequel vous avez consacré de nombreux ouvrages, et puis également Arthur Rimbaud. Vous venez de faire paraître aux éditions Écriture, Rimbaud, dernier voyage, qui s'intéresse donc aux dernières années d'Arthur Rimbaud, et notamment à son retour à Marseille et à sa mort à Marseille avec les derniers moments qu'il a pu vivre avec sa famille. Alors c'est à la fois la partie de l'œuvre d'Arthur Rimbaud, de la vie d'Arthur Rimbaud, qui est la plus mythique peut-être et qui en même temps est peu connue. Ce que Rimbaud est parti faire en Asie, cet attrait pour les voyages, lui qui venait de Charleville-Mézières. Est-ce qu'on sait exactement ce que Rimbaud a fait? On dit qu'il a fait du commerce, il a pu vendre ici et là quelques armes, il a participé aussi à la vie commerciale d'Aden. Quels éléments a-t-on sur la vie de...
Allô, vous m'entendez?
Qui est très loin de la vie parisienne, de la vie littéraire parisienne qui était la sienne.
Oui, en fait, sa vie parisienne, elle n'était pas non plus celle que l'on peut imaginer aujourd'hui, hein, ni celle que pouvaient vivre les poètes, fussent-ils d'ailleurs rebelles à l'époque déjà, mais la vie que Rimbaud a eue à Paris a été une vie un peu aussi aléatoire, c'était une vie précaire, une vie très compliquée parce qu'il était toujours en rupture de ban vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa mère surtout, et puis vis-à-vis de ses études. Donc il était dans une période qui était celle de la rébellion adolescente, on va dire, entre 16 et 17 ans, et donc c'est une période qui est une période parisienne où il a fait des 400 coups, il s'est libéré un peu de la chape de plomb que sa mère avait posée sur lui et que les institutions et que la société, à ses yeux, avait posée sur lui et dont il voulait se débarrasser. Alors, ça a été la rencontre évidemment mythique avec Verlaine. Et puis, cette vie à Paris qui était une vie de provocation que Rimbaud a menée, ne serait-ce qu'auprès des amis poètes que Verlaine lui a fait fréquenter et qu'il n'a cessé d'ailleurs de provoquer, qu'il n'a cessé de défier en proposant des lectures de poèmes qui étaient des lectures tout à fait inconvenantes et même surprenantes, que certains poètes ont reconnu comme étant tout à fait extraordinaires, en tout cas inédites, mais qui n'entrait pas évidemment dans le droit fil de ce qui était publié à l'époque et qui était même dans le droit fil de ce que les poètes de l'époque souhaitaient donner à entendre ou à lire. Donc la vie parisienne a été une vie un peu de débauche, ça a été une vie facile, ça a été une vie qu'il a menée de façon, je dirais, dans une grande à la fois fragilité et puis en même temps dans une grande toute-puissance qui était celle de sa liberté retrouvée. Alors, oui.
Ah oui, c'est surprenant dans la vie de Rimbaud, enfin dans la vie parisienne. C'est d'un côté la très grande maturité de ses poèmes, qui sont vraiment magnifiques, la maîtrise de la langue, même la maîtrise des idées, grande maturité intellectuelle et littéraire, et d'un autre côté, on a l'impression d'avoir un petit garçon insupportable de 15-16 ans qui est au milieu des grands poètes de son époque et qui se comporte comme un gamin.
Oui, cela dit, les grands poètes de son époque, il l'aurait fréquenté, il en a peu, très peu en réalité, sauf déjà un Verlaine débutant, un Verlaine déjà relativement reconnu. Tous les poètes qui y étaient présents dans ces clubs qu'il rencontrait, ce n'étaient pas des poètes qui étaient des stars de la poésie française, ce n'était pas Victor Hugo, hein. Donc, c'était quand même c'était quelque part quand même toujours des marginaux, hein, surtout dans une société qui était hautement bourgeoise, comme celle de la période post-Napoléon III. Donc, il y a une vie qu'il a menée qui était quand même dans des milieux qui étaient marginaux. Hein. Maintenant, vous dites la maturité. Je ne suis pas tellement sûr de ce que vous dites là à propos de la maturité des poèmes. Je crois qu'au contraire, d'ailleurs, Duras, quand on en parlait souvent avec elle, elle me disait, je me souviens, d'ailleurs, j'ai utilisé dans mon livre ce que Duras me rapportait de sa pensée de Rimbaud. Et elle me disait, à côté de Baudelaire, on voit bien la différence qu'il y a entre Baudelaire et Rimbaud. Baudelaire, il y a une éternité dans la langue, il y a une force, une puissance presque éternelle. Elle disait cette phrase formidable, on a l'impression que dans les poèmes de Baudelaire, tout est là avant que d'être là. Ouais, c'était ce que me disait personnellement hein, Duras. Elle n'a jamais écrit ça. Et par ailleurs, elle me disait, mais vous voyez, dans Rimbaud, il y a la jeunesse. Il y a la jeunesse et il y a la force de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui donne cette puissance, cette violence, cette non, justement, maturité hein, qu'il y a dans ces textes. Quand on lit Le bateau ivre, par exemple, ce n'est pas un texte mature. C'est pas un texte qui est mûri définitivement, parce que comme peuvent l'être certains poèmes des Fleurs du Mal. Tandis que dans Rimbaud, il y a quelque chose de la fougue, il y a quelque chose de l'inachevé, il y a quelque chose de l'impossible, illisible à pouvoir écrire, et c'est peut-être pour ça. Justement, c'est parce que ce ne sont pas des œuvres de maturité, que ce ne sont pas des œuvres matures au sens propre du terme, c'est-à-dire éternelles, gravées à jamais, que Rimbaud a décidé de ne plus d'épuiser. Il avait épuisé le vocabulaire, il avait épuisé l'image, il avait épuisé la poésie, en quelque sorte, la source poétique. Et il est allé là où il a mis les mots du poème, c'est-à-dire... sur un bateau ivre qui a perdu sa boussole, qui a cassé sa quille et qui retrouve la grande mer, qui longe des fleuves impétueux et qui va rejoindre la grande mer. Et donc lui aussi, à un moment donné, il a rompu les amarres, il a jeté la boussole, il a cassé sa quille personnelle et il est parti à l'aventure et il a abandonné la poésie et il est parti faire le trafic, faire le commerce et faire l'aventurier dans des lieux qui étaient à ses yeux et qui étaient d'ailleurs à l'époque des lieux que j'appellerais aussi inédits que les mots qu'il voulait employer.
Oui, parce qu'on.
C'est ma vision, hein. Vous entendez bien que c'est ma vision
tout à fait.
Que je dis là. Mais vous savez, je dis à la fin de mon livre, je dis chez Rimbaud, il y a un trou, c'est un abîme. Hein. C'est pour ça qu'on travaille toujours sur Rimbaud, parce qu'aucun chercheur, aucun universitaire, aucun poète après lui, aucun écrivain après lui ne pourra définitivement clore le dossier Rimbaud. C'est un dossier qui est toujours ouvert. Et c'est ce qui fait la force des très grands écrivains, des très grands artistes, c'est que ce sont des abîmes vertigineux. Et donc, il y a chez Rimbaud quelque chose qui se laisse toujours à comprendre, à voir, à envisager et à projeter.
Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il plaît et qu'il est encore lu aujourd'hui, au-delà de sa puissance créatrice, c'est aussi le mythe qu'il y a autour de ça, ses voyages.
Oui. Le voyage... Oui, le voyage, et puis aussi qu'il plaît dans toutes les générations aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est que à la fois, il est un poète aujourd'hui qui est presque institutionnel, mais en même temps, c'est un poète qui a la jeunesse avec lui, justement, cette fragilité, cette précarité-là, hein, et qui fait que le poème n'est jamais parfait avec Rimbaud. C'est qu'au contraire, le poème nous entraîne vers un ailleurs. Vous savez, il y a un poète immense aussi que j'admire beaucoup, mais malheureusement, comme je ne suis pas germaniste, je ne peux pas trop l'étudier, c'est Rainer Maria Rilke. Et Rilke, dans les traductions auxquelles j'ai eu accès en français, il dit que la poésie, c'est le lieu de l'ouvert, avec un O majuscule. Et il dit que c'est un nouveau continent, c'est un continent que peu de gens explorent finalement, que les sociétés bourgeoises ne veulent absolument pas visiter parce que ça les dérange, ça les déstabilise. Mais en revanche, ceux qui veulent s'y aventurer vont y trouver quelque chose d'exceptionnel. Et il appelle ce continent inconnu, ce continent qui est quelquefois accessible, hein, mais qui traite de l'inaccessible, eh bien, ce continent, il l'appelle l'ouvert. L'ouvert. Eh bien, on peut dire que chez Rimbaud, on est en face toujours de l'ouvert. Et c'est ce qui fait que il est toujours, je dirais, le sujet d'études et de lecture.
Et dans cette ouverture, il y a notamment donc l'attrait des voyages qui contribue aussi au mythe Rimbaud, à une époque évidemment où partir vers Aden, partir vers les Indes néerlandaises était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Il suit la route des explorateurs de la fin du 19e siècle, de cette grande époque de découverte aussi, qui accompagne après les. Nous sommes aux prémices de la période coloniale. Mais il y a aussi dans ce bateau ivre, dans cette expression qu'il a où il dit qu'il est l'homme aux semelles de vent,
Oui.
qui conduit vers l'Asie, donc aussi la recherche de cet ailleurs et la recherche de ses voyages.
Ben oui, parce que le voyage, mais vous savez, c'est un thème, c'est une thématique qui est récurrente chez tous les poètes de la fin du 19e siècle, mais déjà au début du 19e siècle, c'est-à-dire depuis Chateaubriand. Hein. Déjà, Chateaubriand parle des voyages des Amériques, etc. Donc, le voyage est un des grands thèmes du 19e siècle et qui va être répercuté chez tous les poètes que l'on peut imaginer. Et particulièrement aussi bien chez les symbolistes que chez les parnassiens, que chez les romantiques, bien sûr, et que chez les décadents, c'est-à-dire nos auteurs de la fin du 19e siècle. Et si je prends Baudelaire, qui est quand même un quasi contemporain de Rimbaud, eh bien, si je prends Baudelaire dans le voyage, non pas l'invitation au voyage que tout le monde connaît, hein, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, etc. Le voyage, le poème qui clôt Les Fleurs du Mal, qui est un très très long poème, et où il s'en explique. Sur sa position métaphysique, personnelle, etc. Et Baudelaire dit, voilà, j'ai tout connu, j'ai connu les femmes, pensant que par leur corps et par le désir et par l'amour physique, je pourrais peut-être accéder à d'autres choses, à d'autres mondes, à ce fameux continent rilkien dont je parlais tout à l'heure, mais ça a été un échec. Donc j'ai essayé comment dire, les autres poisons. Les autres fleurs du mal, c'est-à-dire l'alcool, ça a été un échec. J'ai essayé l'absinthe, etc., un échec. J'ai essayé la drogue, c'est un échec. Le club des hachichins, il faisait partie de ces pratiquants de hachiche, bon, et à haute dose, hein, et donc ça a été un échec aussi. Alors qu'est-ce qui me reste? J'ai essayé la poésie, j'ai échoué aussi. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le voyage. Il me reste le voyage final, c'est-à-dire la mort. Et c'est pour ça qu'à la fin du poème qui s'appelle Le Voyage, il appelle la mort, il dit « Ô mort, vieux capitaine, appareillons et partons vers d'autres lieux, enfer ou ciel, qu'importe, pourvu que ce soit du nouveau. » Alors ça, c'est très beau comme phrase, hein, du nouveau. Hein. C'est-à-dire, en fait, on écrit pour connaître du nouveau, hein, et pas des choses anciennes, et pas des choses déjà lues, entendues, etc. Et Rimbaud rebondit là-dessus. Et Rimbaud dit, je suis le grand malade, le grand criminel, c'est la fameuse lettre au voyant, je suis le grand malade, le grand criminel, le grand malade, le grand criminel, le suprême savant, parce que j'arrive à l'inconnu. Donc le nouveau chez Baudelaire, l'inconnu chez Rimbaud. Eh bien, il part donc, il va quitter la poésie, parce que la poésie comme a été une escale, comme chez Baudelaire, comme Baudelaire le raconte dans Le Voyage. Hein? Alors, et même, on peut dire que la relation avec Verlaine, l'homosexualité donc, est pour lui une escale. Mais ce n'est pas fondateur. Et ce n'est pas, c'est pas Rimbaud qui fait son coming out, comme on dit aujourd'hui, et qui désormais s'instaure, écrivain du 19e siècle, homosexuel. Non, vous voyez, ce n'est pas Oscar Wilde. Il ne se conduit pas comme Oscar Wilde. Hein, et il ne se conduit même pas comme Jean Genet. Plus tard le sera. Donc, il essaie des escales. Il a essayé l'escale de l'érotisme, ou du moins de la rencontre homosexuelle. Il a eu l'escale de l'alcool, l'escale de l'absinthe, l'escale de la drogue, l'escale de la poésie. Tout ça rate. Alors, parce que l'illisible n'est jamais décelable ou décelé. Donc, pour aller plus loin, pour repousser, pour atteindre ce que Mallarmé, qui était un contemporain de Rimbaud, ce que Mallarmé appelait l'inaccessible étoile. Alors pour atteindre l'inaccessible étoile, on va voyager. On va voyager et on part évidemment vers des images, d'ailleurs des images de lecture, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les récits de voyage étaient des récits très importants qui, depuis le début du 19e siècle, même depuis déjà Montesquieu, hein, les lettres persanes par exemple, eh bien, le voyage oriental, hein, était vers un Orient qui était complètement mythifié, vers un Orient qui était complètement sublimé, qui n'avait rien à voir avec la réalité de l'Orient de l'époque, mais qui était totalement fantasmé par les peintres de la Croix, etc. Eh bien, il va, parce qu'il s'est nourri à Roche, il s'est nourri dans les Ardennes, dans sa jeunesse, il s'est nourri à Charleville de tout ça, parce qu'il ne pouvait pas supporter la vie paroissienne, la vie bourgeoise, la vie familiale, la vie organisée. Donc, il lisait des relations de voyage, et des relations de voyage que beaucoup d'ailleurs d'écrivains de voyage avaient écrit ou même inventé quelquefois. Hein. Mais il écrivait, il lisait ça, et donc il a été nourri, biberonné à ça. Et bien sûr, quand il décide de quitter la poésie, parce que la poésie ne peut plus rien lui donner, alors il va se tourner vers le voyage et vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'il va commencer à voyager. Mais ça se fait en plusieurs étapes, hein, entre 1875, c'est-à-dire la date où il abandonne le registre poétique, et puis à partir du moment où il va décider de s'engager dans l'armée, et qu'après, il ne va pas cesser de faire des... Alors, pour reprendre ce que je disais, pour filer un peu cette métaphore, il va d'escale en escale, c'est-à-dire à partir de 1975, ça commence en Allemagne, ça commence à Stuttgart, puis ça revient, puis c'est en Italie, puis c'est en Suisse, puis il tombe malade, puis il revient à Charleville, et c'est sans arrêt des allers-retours sur l'étranger et sur Charleville, qui devient le point d'ancrage, le point de référence de son enfance et à laquelle il revient quand même toujours, hein, mine de rien.
Oui, ça, on le voit bien dans votre ouvrage, c'est qu'il n'arrive pas à quitter définitivement Charleville. D'ailleurs, il revient à Marseille, il va à Charleville, il revient après à Marseille où il décède finalement. Mais il a beau avoir une détestation pour cette région, c'est quand même là qu'in fine, il est toujours attiré.
Oui, mais en fait, parce que... On remarque que dans toutes ces pérégrinations, dans tous ces voyages qu'il fait, qui sont assez, je dirais, surprenants et même donnent le vertige à nous autres, pourtant qui sommes habitués à ce que les gens voyagent, etc., à la mondialisation et aux voyages que la mondialisation a provoqué. On est très étonné de voir combien le voyage est chez lui, je dirais presque quelque chose d'aisé et de facile. Il va, il vient, il rentre, il repart, et il ne cesse pas, dans une sorte de manège, de tourbillon presque pathologique, hein, presque névrotique, eh bien, il n'arrête pas de chercher sa place, finalement. Et d'ailleurs, il va toujours, comme je l'ai dit et comme vous venez de le dire, il revient toujours à Charleville, il revient toujours à la mère, hein. Il revient, même s'il la déteste, même s'il est dans la détestation de sa mère, mais c'est elle qui l'appelle quand même toujours. Et pour lui, Roche ou Charleville sont les lieux, hein, la ferme comme l'appartement de Charleville, sont les lieux, je dirais, d'ancrage d'une histoire qui peut être... parce qu'il est toujours un enfant perdu. Il est toujours celui qui qui s'est senti, comme disait Schopenhauer, jeté dans le monde. Il s'est toujours senti jeté dans l'univers. Et donc, il essaie toujours de rattraper un lieu pour pouvoir s'y accrocher et pour pouvoir trouver une place. Place que personne ne peut lui donner. Parce que lui-même est dans une telle attente. Il est dans une telle, je dirais, dans un tel désir d'éternité, d'indicible. Hein, un tel désir d'une connaissance presque cosmique que, de toute façon, aucune société et aucune affection ne pourront le lui apporter. Donc, il est toujours dans un manque, il est toujours dans une sorte de fragilité, et on le voit bien hein, quand au cours de ses voyages, quand il est capable de tout, il s'engage comme mercenaire au moment où il est à Rotterdam, il prend des années pour cela, il s'engage pour 6 ans, et puis après il va aller dans des comptoirs où il s'engage pour 3 ans, puis pour 2 autres années. Il est toujours dans une sorte de désir de repartir, parce que c'est toujours ailleurs que tout est mieux. Et il se rend compte que là où il va aller, il sait très bien que c'est toujours aussi précaire et aussi fragile. Et donc, il est dans une pauvreté. C'est pour ça qu'il est très émouvant, parce qu'en même temps, il est dans une pauvreté de lui-même et aussi dans une toute-puissance de lui-même.
Comment est-ce qu'on connaît la vie de Rimbaud dans ces dernières années? On a des lettres de lui, notamment à sa famille,
ce que vous pensez. Il y en a 150, je crois. Oui. Enfin, un peu à peu près. Oui.
Et on voit aussi dans votre ouvrage le lien qui l'unit à sa sœur Isabelle, c'est-à-dire elle qui vient le soigner à Marseille. Et donc, même s'il a des rapports très compliqués avec sa mère, sa sœur est quelqu'un d'important pour lui.
Oui, c'est un peu l'objet du livre, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà écrit sur Rimbaud, mais je voulais m'attacher en fait à quelques mois, puisque là nous sommes dans l'année 91, c'est-à-dire entre avril et septembre, et donc il y a quelques mois qui vont être, je dirais, pour lui très importants, parce que ce que je voudrais qu'on entende, ce que je voudrais enfin, du moins cette lecture que j'en fais, c'est que Rimbaud est un grand poète spirituel. C'est un grand chaman. C'est un homme qui sait. Un peu comme Duras était une femme qui savait, comme disait Lacan. Hein. Cette femme sait, S-A-I-T. Elle sait. Elle sait quoi? Eh bien, elle sait l'indicible. Eh bien, Rimbaud, il sait l'indicible aussi. Donc, tout Rimbaud est spirituel. Tout Rimbaud, c'est pas seulement un aventurier, c'est pas Chateaubriand seulement, vous voyez, qui, lui, va voyager et qui, quelquefois, feint le voyage. Hein, il fait croire qu'il est parti passer des nuits sous les grands cèdres d'Amérique. En fait, sa nuit dans les déserts du Nouveau Monde est totalement bidon. Il l'a complètement inventé. Sauf qu'il avait le don et le charme du style et qu'il arrivait à restituer une ambiance alors qu'il n'y était jamais allé. Tandis que Rimbaud, c'est autre chose. Hein. D'ailleurs, il voyez, il n'écrit même pas cela. Hein. Il n'écrit même pas ses mois et ses années dans le Harar, et au Harar, et à Aden, et à Sumatra, et à Java, etc. Il n'écrit jamais tout ça. Hein. Simplement, il le vit intérieurement. Et c'est ce qui fait, justement, ce mystère Rimbaud. Donc, il y a une période qui est très intéressante, c'est la période de sa sœur. Parce que d'abord, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la sororalité, selon Roland Barthes. Et donc, je me suis déjà intéressé. J'ai fait un livre sur la sororalité il y a beaucoup d'années chez Flammarion, qui était Blaise Pascal et sa sœur, Jacqueline. Et il y a une relation très singulière entre les deux et très, très puissante. Et cette relation, elle a du sens quelque part, c'est-à-dire c'est vraiment une relation qui est d'ordre véritablement métaphysique. Alors, pour Rimbaud, ça a été un peu la même chose. Et Rimbaud a appelé sa sœur à un moment donné, quand sa mère n'a plus voulu de lui, puisqu'elle est repartie faire les moissons à Roche, Et elle est une femme forte, hein, c'est une femme puissante elle-même, et elle a décidé qu'à un moment donné, le devoir de la ferme était plus grand que le devoir qu'elle devait à son fils, auquel elle a répondu d'ailleurs très vite, dès qu'il l'a appelée, elle est venue dans les 2 jours. Elle a fait le voyage à son âge, elle a fait le voyage très compliqué de Roche dans l'Est jusqu'à Marseille quand même. Et puis à un moment donné, après l'amputation de la jambe, eh bien, elle a dit, bon voilà, j'ai rempli mon devoir de mère, j'étais à ton chevet, maintenant je rentre pour être au chevet de la ferme. Et donc, Rimbaud s'est retrouvé tout seul, il a pleuré, il s'est trouvé abandonné de nouveau, encore une fois, jeté dans le monde comme il pouvait le ressentir. Et il a appelé sa sœur. Il a appelé sa sœur et sa sœur est venue et elle va devenir la grande vigile, elle va devenir la grande sentinelle du frère. Et là, il y a quelque chose de très très puissant qui se joue entre les deux. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que, contrairement à beaucoup de Rimbaldiens, vous savez, malheureusement, d'ailleurs quelquefois pour moi, parce que j'ai beaucoup écrit sur des auteurs mythiques, comme par exemple Albert Camus, comme Picasso, ou comme Duras, ou comme Saint-Exupéry, et à chaque fois, il y a la chapelle de ceux qui gardent le temple, n'est-ce pas ? Il y a les Rimbaldiens, les Camusiens, les Exupériens, et les Picassiens, on va dire, bon, qui pas touche à mon personnage, n'est-ce pas ? Donc, pas touche à Camus, pas touche à Rimbaud, pas touche à Saint-Ex, pas touche à Duras. Mais il se trouve que moi, je suis quand même un chercheur. C'est d'ailleurs mon métier, je suis enseignant-chercheur. Donc, je suis universitaire, je travaille, j'ai fait soutenir des dizaines et des dizaines de thèses sur Duras, etc. Donc, je ne peux pas non plus en exclure de cette recherche-là. Et souvent, je suis en porte-à-faux avec certaines positions des Rimbaldiens sur la relation de Rimbaud avec sa sœur. Et moi, je me suis beaucoup intéressé au contraire à elle, parce que je trouve que de toute façon, ce que disent les Rimbaldiens, à savoir, enfin, certains Rimbaldiens, mais ce que dit la doxa, on va dire, rimbaldienne, c'est d'abord, la sœur est une paroissienne, la sœur est une folle de messe, comme disait Rabelais, hein. Pour autant, elle est peut-être molle de fesses, comme disait Rabelais dans son jeu de mots. Elle est folle de messe et en réalité, elle tient à récupérer son frère et à en faire un saint. Et donc, tout ce que les derniers jours de Rimbaud, les dernières semaines de Rimbaud, sont à leurs yeux, aux Rimbaldiens, entachés du regard que la sœur Isabelle a porté sur son frère et ce qu'elle en a rapporté elle-même dans un écrit. Qui finalement est un écrit magnifique, qui est un texte formidable de trentaine de pages et qui raconte quand elle était au chevet de Rimbaud. Et pourquoi est-ce que je ne tiendrai pas compte de cette fille qui est quand même supérieurement intelligente, qui est d'une grande sensibilité, et pourquoi tiendrai-je davantage compte du rejet que certains Rimbaldiens contemporains font d'Isabelle ? Donc moi je trouve qu'ils se renvoient dos à dos. Pourquoi croirais-je l'un plutôt que l'autre, puisqu'on n'a aucune preuve, aucune. Donc c'est bien le ressenti du biographe qui va permettre de pouvoir entendre les choses. Et moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu dans cet inconnu de ces quelques semaines passées au chevet de Rimbaud, comme moi j'ai passé des mois et des mois au chevet de Rimbaud, eh bien, j'ai entendu des choses que Isabelle a dit. Et en même temps, je les crois pas forcément vraies, pas forcément justes, mais enfin, je ne peux pas imaginer qu'elles sont toutes fausses. Et donc, cette histoire de Rimbaud et de sa sœur m'ont particulièrement intéressé. Et voilà, et j'en ai fait ce récit, j'ai raconté ça, et en même temps, cette histoire formidable hein, qui se passe entre eux, de relations presque sacrales entre eux.
Ce qui est intéressant également dans votre ouvrage, c'est de montrer la spiritualité de Rimbaud et la manière dont, à la fin, il revient aussi à cette notion de Dieu dont il s'est un peu tenu éloigné au cours de sa vie.
Oh ben, il s'est tenu très éloigné de tout ça. D'abord, il s'est éloigné surtout de la dimension, je dirais, paroissienne de la religion catholique, à laquelle sa mère l'avait habitué. C'est-à-dire qu'il déteste les messes, il déteste la vie paroissienne, il déteste l'hypocrisie. de la société paroissienne, et particulièrement des bourgeois qui vont à la messe le dimanche et qui croient qu'ils ont fait ainsi acte de gratitude envers Dieu et qu'ils sont quittes avec lui, Rimbaud est de ceux qui croient que Dieu est avec les marginaux, que Dieu est avec les humbles, que Dieu est avec les pauvres, que Dieu n'est pas avec les riches et les bourgeois, mais que Dieu est avec les marginaux et avec les blessés de la vie, comme dirait Jean-Paul II, justement, hein, avec les blessés de la vie. Et donc, lui s'estime être un blessé, justement. Hein, et donc, il n'a jamais quitté Dieu, l'idée de Dieu. Je ne dis même pas Dieu en tant que croyance, mais l'idée de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'il est donc dans une perspective qui a toujours été sacrée, mais pas religieuse. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Certes, il a abandonné tout ce qui était la vie paroissienne à laquelle ses vœux de baptême l'avaient promis. Il les a abandonnés, il les a quittés, mais ce n'est pas pour autant qu'il est abandonné de Dieu. Au contraire, c'est quand Dieu, c'est quand le Fils part prodigue loin de lui que Dieu aime le toucher. Et au moment où il va mourir, dans cette agonie qui va durer quand même quelques semaines, dans cette agonie, Isabelle lui propose la visite d'un prêtre. Et le prêtre va vouloir lui donner la communion. Et Isabelle, en lieu et place de Rimbaud, dit non, ne lui donnez pas la communion parce qu'il va la rejeter, il ne peut plus avaler. Donc il ne peut plus avaler l'hostie. Donc ne la lui donnez pas, mais soyez à son chevet, voyez ce qu'il va dire. Et donc, il reste longtemps, le prêtre, avec Rimbaud. Nous ne savons rien de cela. Alors les Rimbaldiens disent, ben, Isabelle invente après. En tout cas, la première chose que dit Isabelle, et ça pourquoi ne la croirais-je pas ? Il paraît que le prêtre aurait dit, votre frère donc est très proche de Dieu, il en est très aimé. C'est donc les paroles du prêtre. Alors qu'est-ce qui s'est dit pour que le prêtre puisse dire une chose pareille ? On n'en saura jamais rien, de toute façon. Ça fait partie encore du mystère de l'agonie. Mais en tout cas, Rimbaud a été dans une perspective qui est justement une perspective finalement qui était celle de sa vie, c'est-à-dire la perspective de la réconciliation, d'une réconciliation avec sa famille, avec sa terre natale, avec une volonté de toujours avoir, de n'être plus enfin jeté, comme je le disais tout à l'heure, jeté dans le monde, mais d'être retourné, je dirais, dans une sorte d'ancrage, dans un nid, hein, qu'il aurait enfin peut-être trouvé. C'est donc c'est dans cet absolu-là que je me suis situé et que j'entends également l'œuvre de Rimbaud. Parce que quand on lit Rimbaud, c'est bien de cela dont il parle. Lisez par exemple Aube, hein, et vous verrez que nous sommes en lien complet avec ce que je dis là.
Ce qui est surprenant d'ailleurs dans cette vie, c'est que celui qui a toujours été un bateau ivre finit par mourir dans un port comme s'il était arrivé définitivement à destination.
C'est très juste ce que vous dites, oui.
C'est la fin de son voyage, oui. et donc de sa vie aussi.
Oui, le bateau était ivre, le bateau, parce qu'il était ivre, lui a permis d'aller de Sumatra à Java, à Jakarta, à Aden, etc., le Harar, et même dans des contrées très, très dangereuses, dans des déserts. Et le bateau l'a amené jusque-là. Et puis il le ramène au port. Il le ramène au port, mais bien amputé de beaucoup de choses, hein, c'est le cas de le dire, aussi bien physiquement que pécuniairement, il revient pauvre, hein, comme il était parti. Il revient avec ses semelles devant, puisque de toute façon il ne peut plus en chausser, puisqu'il n'a plus de jambes. Donc il revient avec des semelles véritablement devant, comme il disait.
Donc Rimbaud n'a pas écrit sur les voyages qu'il a fait. Il y a un poète et un écrivain qui a écrit, c'est Paul Claudel, qui a été aussi très influencé par Rimbaud. C'est peut-être lui finalement qui a accompli l'œuvre rimbaldienne en écrivant sur le Japon, en écrivant sur l'Asie, en écrivant les différents périples qu'il a accomplis.
Écoutez, alors plus que... moi je dirais, parce que Paul Claudel ne peut jamais, on ne peut jamais lire Paul Claudel sans penser quand même à sa position diplomatique, à son luxe, à son goût du luxe, à son château de Brandt, etc., qu'il voulait, qu'il a eu, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours chez lui quand même quelque chose qui est un petit peu, je dirais, agaçant chez Claudel et d'institutionnaliser. Même si sa vocation spirituelle est née à Notre-Dame au pied d'un pilier, il y a toujours chez lui ce souci quand même académique et d'être reconnu par la société, et évidemment la société la plus huppée de Paris. Plus que Claudel, voyez-vous, moi je verrais que les héritiers de Rimbaud, c'est Ségalène, ou alors c'est même Saint-John Perse, un autre diplomate, mais beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal, beaucoup plus cash que Claudel. Et je trouve que chez Saint-John Perse, il y a quelque chose qui fait beaucoup penser, ne serait-ce que par les titres de Saint-John Perse, des recueils, hein, Vent, par exemple, au pluriel. Oui, il y a quelque chose de puissant qui fait penser à Rimbaud. Plus que Claudel à mes yeux. Mais on peut évidemment parler de Claudel aussi et de son rapport à la poésie et à l'Orient. Mais c'est un Orient très...
conventionnel
très,
ou...
Très établi, vous voyez. C'est un Orient alexandrin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose de plus convenu, oui.
Sur les auteurs sur lesquels vous travaillez, notamment sur lesquels vous avez publié, Marguerite Duras, Antoine de Saint-Exupéry, Camus, cette idée du voyage est toujours présente, notamment Saint-Exupéry, c'est celui qui a écrit ses vols de nuit et ses voyages, Marguerite Duras aussi. Oui. C'est un élément important dans cette œuvre littéraire du début XXe siècle, fin XIXe, début XXe siècle.
Oui, c'est une œuvre, enfin les auteurs dont je parle, ce sont tous des auteurs finalement, pour moi, qui ont un motif commun, et c'est d'ailleurs pour ça que je les aime, parce que j'en suis moi aussi, c'est-à-dire un exilé. Moi j'ai vécu toute ma jeunesse en Algérie, j'en ai été chassé, quelle que soit l'histoire, juste ou injuste, c'est pas le sujet, mais j'en ai été chassé, je suis parti avec une valise. Uniquement avec une valise, et ma mère uniquement avec une valise, on avait quelques biens, on a tout perdu, et on est parti avec une valise. Donc le sentiment de l'exil, le sentiment du bateau qui s'éloigne de soi, de la terre natale, pardon, qui s'éloigne de soi, de voir sa ville natale, en l'occurrence Alger, s'engouffrer dans la mer et n'être plus que ouvert, comme je disais tout à l'heure, à l'inconnu, et arriver à Marseille, qui était une destination improbable pour nous, ça a été pour moi un grand, grand choc. Donc, écrire sur ces auteurs, je me suis rendu compte à un moment donné que tous étaient des êtres d'exil et que tous avaient pris le bateau pour partir. Et que tous s'étaient sentis aussi un peu lancés dans le monde et abandonnés quelque part. Donc, je pense, vous voyez, moi je suis un biographe qui ne travaille pas sur des auteurs pour travailler sur des auteurs. Je travaille sur des auteurs parce qu'ils parlent à mon histoire. Et qu'ils me permettent ainsi d'avancer, moi aussi, sur mon chemin de vérité, comme eux ont avancé. Donc, parler sur Rimbaud, c'est parler de l'exil. Et à tout point de vue, pardon, parler de Camus, c'est la même chose. Camus ne parle que de l'Algérie, il ne parle que de Tipaza. C'est la seule chose qui l'intéresse. D'où la douleur de n'être pas entendu des Algériens, et d'avoir été considéré comme un traître. Qui n'a jamais été. Saint-Exupéry, la même chose. Et Rimbaud et Duras, alors n'en parlons pas, elle, c'est la grande exilée aussi. Hein. Voilà, donc vous voyez, ce sont des auteurs qui sont des auteurs de l'exil.
Dans la postérité de Rimbaud, à partir de quel moment il a été reconnu comme l'auteur qu'il est, qui finalement est devenu un auteur académique? On l'étudie à l'école, on l'étudie en classe préparatoire. Enfin, Rimbaud est aujourd'hui un auteur installé, pour quelqu'un d'ailleurs qui se voulait en rupture. C'est dès sa mort ou est-ce que ça s'est fait peu plus tard?
Déjà, lorsqu'il était... c'est grâce à Verlaine, hein, il faut quand même lui reconnaître ça, si Verlaine a été follement amoureux de Rimbaud. Hein. Rimbaud, beaucoup moins, finalement. Hein. Et Verlaine, après l'incident que nous connaissons en Belgique, et qui l'a conduit à la prison, Verlaine n'a eu de cesse de faire connaître l'œuvre de Rimbaud. Rimbaud qui désormais s'en moquait, Rimbaud qui avait laissé ça, qui avait abandonné ça. Et il avait appris pendant sa période des années 80, 80, dans les années 80, début 80, fin 80, jusqu'à son départ d'Aden, il avait entendu déjà, particulièrement vers la fin plutôt, que des poètes français s'intéressaient à son œuvre et que certains de ses poèmes, grâce à Verlaine, étaient dans des revues, étaient déjà publiés dans des revues, et que Verlaine avait fait en sorte de composer un recueil de l'œuvre de Rimbaud. Donc il y avait déjà ça, mais il faut bien voir que nous sommes dans une période qui est quand même post-Napoléon III, et que cette période est une période qui déteste les poètes, et donc, sauf s'ils sont académiques. Mais donc tous ces poètes qui sont surtout après la Commune. Donc, ce sont des poètes qui sont considérés comme des sauvages, comme des barbares, qui sont considérés comme des rebelles, comme des anarchistes. Et on sait les dangers que représentent à la société de la fin du XIXe siècle les anarchistes. Donc, ou bien ce sont des pervertis, ce sont des invertis, comme on disait, etc. Donc, ils ne sont dignes que de la prison, finalement, comme l'a été, comme l'aura été Oscar Wilde. Donc, cette reconnaissance contemporaine que nous voyons aujourd'hui, elle ne s'est pas installée très, très vite. Mais on doit à Verlaine d'abord d'avoir fait, je dirais, parcourir ou courir la rumeur d'un grand poète adolescent qui était un petit génie, finalement, hein, et ensuite dû à sa sœur. Et sa sœur n'a eu de cesse que de faire publier, même si c'est une œuvre qu'elle a fait édulcorer, elle a fait couper des poèmes, etc. Elle a quand même contribué. Elle a quand même contribué à la reconnaissance de son frère. Ce n'est qu'après, au XIXe siècle, c'est grâce au XXe siècle, après surtout avec à la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire après la guerre de 39-45, que Rimbaud est devenu le poète que l'on sait et qu'il a été encensé. Mais parce que, justement, la société était prête à entendre cela. Elle était prête à entendre ces poètes qui étaient des poètes marginaux et qui étaient des poètes maudits. Et le motif du poème maudit est devenu un motif à la mode.
Et effectivement, ça contribue aussi au mythe. Si aujourd'hui Rimbaud plaît et est étudié, c'est outre pour la qualité intrinsèque de ses poèmes, mais c'est aussi pour ce côté sulfureux, côté de voyage, enfin la mythologie qu'il y a autour de Rimbaud et qui n'a d'ailleurs pas forcément cherché, mais enfin qui contribue aujourd'hui à son aura.
Il ne l'a jamais voulu, cette postérité, au contraire, il la fuit. Hein, il la fuit. Hein. Et il se retrouve dessiné et dupliqué par tous les, que ce soit par Andy Warhol, par exemple, hein, qui en a fait la peinture que vous savez, et qui a été reproduite dans le monde entier. Donc il est d'ailleurs, je cite à la fin de mon livre, hein, je cite les stars du XXe siècle, depuis de Patti Smith jusqu'à Rolling Stones, etc., qui ont pris Rimbaud comme un modèle, hein, comme un modèle de sauvagerie, hein, de la sauvagerie. Mais qui dit sauvagerie ne dit pas sauvage au sens péjoratif du terme, hein, c'est-à-dire assassin, Daesh, etc. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais non, quand on dit sauvage, c'est dans le sens de Marguerite Duras, c'est-à-dire innocent, c'est-à-dire sauvage qui est non touché par la société, qui est non touché par la civilisation. Et donc Rimbaud appartient à ça. Et cette mythologie, évidemment, du peintre, du poète rebelle depuis l'enfance, qui s'en va, qui quitte, qui fuit, qui fugue, qui ose tous les dangers, qui déjà ne reconnaît pas son genre, etc. Enfin, tout ça fait que... Tout ça fait que l'homme a tout d'un coup eu une image qui est une image d'exception et une image unique. Et c'est cette unicité-là, cette singularité-là, et ce courage également qu'il faut pour le faire, pour l'avoir fait, pour que, justement, il devienne très très vite un mythe et qu'il entre dans une mythologie qui est celle, justement, de ce qu'était Kerouac, hein. C'est-à-dire on the road, n'est-ce pas? On est sur la route, quoi. On n'est plus dans les rails de la société, on est sur la route, on est on the road. Et cette idée qui est très forte chez le poète, hein, c'est une idée très puissante, hein, l'idée que le poète, d'abord, est le poète on the road. Comme il nous incite nous-mêmes à être on the road, hein, et il nous incite à quitter la route et aller sur une autre route, hein, beaucoup plus inconnue, beaucoup plus illicite, beaucoup plus dangereuse, mais qui est forte, là, de vérité profonde et initiale. Le reste, ce sont des routes connues, c'est la route des banquiers, ce sont des routes connues, hein. Ce sont des routes de l'argent, c'est la route du capital, c'est la route de la morale, c'est la route de la société, c'est la route de l'ordre instauré. Rimbaud, il est à côté. Et donc, c'est cette route-là qu'il nous demande d'emprunter, et il nous dit que c'est la seule route où on peut voir des étoiles.
Bien, merci beaucoup, Alain Vire-Condelet, d'avoir évoqué avec nous ce dernier voyage d'Arthur Rimbaud. Donc, le titre de votre ouvrage, c'est Écriture, Rimbaud, dernier voyage. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également retrouver nos émissions antérieures, ainsi que notre numéro actuellement en kiosque, et là aussi les anciens numéros. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à la géopolitique.